Jean Vilain vous présente ses nouvelles vilaines. Nouvelle vilaine. Histoire. Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, ça va être encore l'histoire avec un grand H. Et nous allons nous rendre en 1931, plus précisément le 14 avril 1931, avec l'avènement de la République espagnole. Ce jour-là, sous les vivats de ces cheminots et de millions d'Espagnols, naissait la République. Cette première expérience démocratique met fin à un système féodal tenu par les propriétaires latifundaires, avec le soutien du roi et de l'Église. Ceux-ci doivent s'incliner devant la force du peuple et sa volonté de moderniser le pays. L'histoire de la République espagnole est sujette à un révisionnisme intense. Des historiens rigoureux ont mis et mettent leurs énergies à combattre une histoire manichéenne, à en finir avec les constructions historiques du franquisme qui s'est acharné à asseoir sa légitimité sur cette République qui aurait été liberticide, anticléricale et porteuse d'un danger communiste. Il fallait dès lors une croisade pour en finir avec cette anti-Espagne, cette entreprise révolutionnaire qui, selon eux, menaçait l'Église, la civilisation chrétienne, l'ordre, la famille, la patrie, le tout manipulé, soi-disant, par Moscou. On assiste fort heureusement aujourd'hui à une sorte de révision de ce révisionnisme. En août 1930, les forces d'opposition modérées signent le pacte de Saint-Sébastien, qui prône une alternative républicaine à la monarchie. Le 12 avril 1931, les listes républicaines obtiennent la majorité aux élections municipales face à la droite monarchique. Et le roi, Alphonse XIII, s'en va. Il avait été largement bienveillant à l'égard de la dictature de Primo de Rivera entre 1923 et 1930. Le 14 avril est proclamée la République. Dans un climat pacifique, de grande ferveur et d'espoir populaire, d'espérance de solution aux problèmes de l'Espagne. En effet, persistait l'ancien régime agraire, les déséquilibres régionaux, etc. Le pays vit encore une situation semi-féodale, très très faible industrialisation, campagne misérable, un peuple saigné par les classes et institutions dominantes, l'armée, l'Église, les grands propriétaires, la vieille oligarchie, le système monarchique. Le conservatisme politique et idéologique imprègne la société. À la campagne, en Andalousie, en Estramadure, en Nouvelle-Castille, la grande propriété domine et écrase un prolétariat agricole souvent condamné au chômage. 400 000 salariés agricoles chômeurs en 1934. Mais, dans cette Espagne peu industrialisée, en effet, 25% de la population active seulement travaillait pour l'industrie, et cette Espagne de prolétariat concentré et très organisé dans quelques régions ont lieu des dures luttes, comme celle d'avril-mai 1935 à Saragosse, où une grève dura 6 semaines, une grève générale. L'armée, qui était forgée dans les guerres coloniales, se croit menacée par les réformes modernistes de la République et s'invente une mission salvatrice. Elle compte 21 966 officiers pour 100 000 soldats. L'Église, restée liée aux classes dominantes, exerce une très réactionnaire influence sociale. L'éventail républicain qui gagne les élections va de la droite libérale au secteur progressiste, englobe l'extrême gauche, l'anarcho-syndicalisme, la gauche socialiste, la droite bourgeoise, le petit parti communiste, les nationalistes, etc. Le faible président du gouvernement, Niceto Alla Casamora, est issu de la droite libérale. Leroux et Barrios sont issus d'un parti radical droitier. Pierto et Largo Caballero, Fernando de los Ríos sont issus du PSOE, le Parti Socialiste. Azanad, Izquierda, Republica, etc. Et de nombreuses divergences marquent le camp républicain. Mais presque tous considèrent la République comme le régime le plus apte à répondre aux transformations qu'exige l'Espagne. Tout cela nous aide à comprendre le fond de classe qui marque les conflits politiques. Tentative de coup d'État du général Sanjuro en août 1932, par exemple. L'historien Ángel Vinas considère que la guerre d'Espagne fut une guerre idéologique, une guerre de classe, une guerre internationale par procuration. Le 9 décembre 1931, les Cortés approuvent une constitution qui porte des avancées considérables pour l'Espagne de l'époque. Elle définit le pays comme une république démocratique de travailleurs de toute classe et proclame, dans son article 1, « La République constitue un État intégral, compatible avec l'autonomie des municipalités et des régions. » Du coup, l'étouffant centralisme historique castillan est ébranlé. Ce même 14 avril est déclarée la République catalane avec un gouvernement autonome et un parlement, un statut d'autonomie. Ce nationalisme catalan porte en lui des contradictions de classe, mais aussi des revendications démocratiques et un fait catalan exacerbé par le centralisme castillan. Le peuple basque, lui, n'obtiendra son statut d'autonomie qu'en octobre 1936. La Constitution notifie la liberté d'association par son article 39 dans une Espagne encore pétrifiée et asphyxiée par le poids social et politique de l'Église. Face à l'obscurantisme et à un pouvoir quasi théocratique, la Seconde République institue la séparation de l'Église et de l'État, la laïcité de ce dernier et la liberté de culte de toutes les confessions, et ainsi que le non-financement des institutions religieuses. Aucune activité religieuse n'est proscrite. Elle interdit seulement à l'Église, qui avait la mainmise sur l'enseignement, de désormais se mêler de cet enseignement. L'école devint publique, mixte, laïque, obligatoire et gratuite. Une révolution qui apparaît comme insupportable au clergé. Dès le 1er mai 1931, une pastorale du cardinal Segura jette l'anathème sur la République, qui, elle, de son côté, crée de nouvelles écoles. Et 10 000 nouvelles écoles, dans un pays où un enfant sur deux n'était pas scolarisé. Cette constitution, qui pourtant nous apparaît aujourd'hui modérée, instaure le mariage et l'enterrement civil, et le divorce. L'Église part alors en guerre contre ces avancées qui lui sont intolérables, et une partie du peuple répond souvent par la violence anticléricale spontanée. Pour la première fois, les femmes votent, comme les citoyens de plus de 23 ans, et peuvent être élues. De grandes dirigeantes accèdent à la politique. Victoria Kent, Margarita Necken, Frederica Montseny, Dolores Iraburi et Clara Campaneol. Le bilan culturel de ces années républicaines et d'effervescence politique est remarquable. Création d'universités populaires dans chaque province, création de 5000 bibliothèques itinérantes, dont 46 dans la province de Teruel, création de l'institution publique des missions pédagogiques qui est parrainée par de grands intellectuels et artistes comme Antonio Machado, Pedro Salinas, Luis Cernuda, Alejandro Casona, Maria Zambrano, pour porter la culture dans les zones les plus reculées, parfois à Dodane, tandis que Lorca promène son groupe de théâtre universitaire, la Baraka, un âge d'or de la culture. La génération de 1927 est toujours là. Le budget de l'éducation augmente de 50% dans un pays à 30% d'analphabètes. Les cantines populaires reçoivent les enfants des pauvres. Les syndicats ouvrent des Athénéos, des maisons du peuple. Et la presse écrite, syndicale, politique, devient foisonnante. Cependant, malgré des avancées réelles, comme la journée de 8 heures à la campagne, l'arrêt des expulsions des petits fermiers, la politique sociale n'est pas à la hauteur des attentes populaires. À la campagne, où vit 50% de la population active, la moitié des travailleurs ne sont pas propriétaires. Les relations sociales se crispent. Sous la pression populaire, la République exproprie une poignée de grandes propriétés, les terres des grands d'Espagne, et installe des milliers de petits fermiers, 9000 familles en fin de 1933. Mais pas de collectivisation. C'est peu face aux promesses de cette République, mais c'est trop pour les possédants. L'Institut de la réforme agraire va qu'au plus préfet. Les journaliers sans terre occupent des exploitations, exigent la terre à ceux qui la travaillent, notamment en Andalousie, qui est dominée par le latifundum. Une insurrection paysanne anarchique, le 11 janvier 1933, proclame à Casavierge, en province de Cataldis, le communisme libertaire. La police républicaine, les gardes d'assaut, répriment dans le sang la révolte et fait 21 morts. L'anarcho-syndicaliste Confédération nationale du travail, structure de sa puissance et de son idéologie révolutionnaire de grands secteurs du prolétariat agricole et industriel. De frustration en frustration, la coalition de gauche implose. Et le 9 novembre 1933, les conservateurs gagnent les élections législatives. Et alors commence la revanche. Des centaines de familles de fermiers sont chassées de leurs exploitations en Catalogne. Les autonomies sont menacées. La fascisante CEDA, Confédération espagnole des droits autonomes, de Gil Robles, accède au gouvernement le 4 octobre 1934. Durant cette période de régression sociale, contre cette restauration, le dirigeant socialiste Largo Caballero, soutenu par le CPCE, appelle à l'insurrection populaire, grève générale, le 5 octobre. Aux Asturies se crée une situation à caractère révolutionnaire. Socialistes, anarchistes et communistes y proclament l'abolition de l'argent, l'autogestion ouvrière et, au passage, assassinent quelques prêtres. Les comités révolutionnaires comptent 20 000 miliciens armés. Une belle consigne, Unios, Hermanos, Proletarios, unissez-vous, frères prolétaires, face à la répression impitoyable des troupes coloniales commandées par le général Yagü et organisées depuis Madrid par Franco, chef d'état-major, la révolution s'achève le 20 octobre. On compte 1 000 000 de morts et 30 000 prisonniers politiques. La libération de ces derniers sera l'une des revendications des listes du Front populaire au début de 1936. La Seconde République espagnole présente donc un bilan contrasté. Cette tentative de modernisation de l'Espagne, d'expérience libérale démocratique, de démocratisation de relations sociales ancestrales et inégalitaires endiables, fut pourtant insupportable aux classes dominantes, à la vieille oligarchie et à la bourgeoisie montante. Le programme de la République, audacieux pour l'Espagne de l'époque, serait aujourd'hui qualifié de réformiste. Mais c'est déjà trop pour les possédants qui, dès la victoire de la République, avaient commencé à conspirer. De 1931 à 1933, naissent et opèrent des groupes fascistes aux pratiques paramilitaires qui provoquent et tuent dans la rue. Prêt à tout et tente jusqu'en 1936 de créer un climat de chaos. En octobre 1933, José Antonio Primo de Rivera, le fils du dictateur, avait fondé la Falange espagnole. Et malgré les aspirations révolutionnaires de certains secteurs, il n'y avait en Espagne aucune possibilité, aucun danger malgré la polarisation de la vie politique, de révolution communiste ou anarchiste. La violence naît de la non-acceptation, dès le départ, de la victoire du peuple républicain par ceux qui voyaient leurs héréditaires privilèges de classe mis en péril. L'honneur et le profit ne couchent pas dans le même lit, disait Cervantes. Entre la République espagnole, enfin la Deuxième République espagnole dont je viens de vous parler, et le 20 novembre 1975, il y a eu bien sûr la guerre d'Espagne et l'instauration d'une dictature qui était dirigée donc par le général Franco. Le 20 novembre 1975, Franco est mort, emportant avec lui la dictature sanglante qu'il imposait à l'Espagne depuis près de 40 ans. Dernier oripeau des tyrannies d'Europe de l'Ouest, son règne a fait l'objet d'une tentative de réhabilitation. On entendait « dictature soft ». Pour qualifier un régime qui a en fait commis les pires crimes contre l'humanité. Et pendant ce temps, les plaies qu'a laissées Franco derrière lui saignent encore. Il faut prendre au sérieux Franco et se garder des clichés qui en font un politique et un militaire de petite envergure. Le dictateur, a su construire de lui une image de sauveur, de croisé, dans la tradition médiévale d'une religion d'État conquérante, d'un obscurantisme à la mesure et d'une reconquête patriotique inspirée de celle des rois d'Espagne contre les Maures. Le 31 janvier 1926, à 33 ans, Franco devient l'un des plus jeunes, plus célèbres et ambitieux généraux espagnols. Malin et avisé politiquement, héros de la guerre coloniale au Maroc dans les années 1910, il y apprendra les méthodes de terreur de masse. Le jeune général sera choyé par le roi Alphonse XIII et le dictateur Primo de Rivera. Dès l'avènement de la République, le 14 avril 1931, il éprouve une hostilité qu'il sait dissimuler. En février 1932, le président Azana le nomme chef de la 15e brigade d'infanterie de Galice, puis, en février 1933, commandant militaire des Baléares. Entre-temps, le 10 août 1932, le général Sanjurjo avait tenté un coup d'État contre la République. Franco était resté prudemment en retrait, et durant les 2 années de contre-révolution, entre 1934 et 1935, Franco sympathise avec l'ultra-conservatrice CEDA, la Confédération espagnole des droits autonomes, qui mène une politique de revanche sociale et de démontage des mesures progressistes des premières années de la République. Lorsqu'éclate la révolution des Asturies en octobre 1934, qui proclame la relation socialiste asturienne, c'est lui qui, dans les fêtes, commande la terrible répression et écrase les mineurs. Il applique la stratégie de la terreur, souvenir d'Afrique. En mai 1935, il est nommé par le fascisant ministre Gilles Robles, chef d'état-major de l'armée, qu'il investit peu à peu. Lorsque triomphe électoralement le Front populaire le 16 février 1936, Franco est convaincu que le communisme va s'installer en Espagne. Dès lors, la conspiration des officiers ultra de l'Église, de grands propriétaires, etc., s'accélère et le gouvernement de la République se montre pusillanime envers les conspirateurs. Redevenu chef du gouvernement, Azana relègue Franco, commandant des Canaries. Et quand le groupe d'officiers factieux prépare le golpe du 17 au 18 juillet, dans un premier temps, Franco hésite face au principal instigateur du putsch, le général Mola. On sait aujourd'hui que le coup d'État était accompagné d'un plan d'extermination et conçu comme une guerre d'anéantissement de l'Espagne républicaine, du prolétariat, pour rendre tout retour en arrière impossible. Lorsque Franco prend la tête du mouvement, il le fait pour obtenir une victoire totale et un pouvoir personnel absolu. Ses objectifs sont avant tout politiques. Contrairement à la piètre opinion qu'avaient de lui Hitler et Mussolini, Franco s'avère un stratège militaire. Il prend la direction des redoutables et sanguinaires troupes coloniales basées au Maroc, la Légion, les Régulars, les mercenaires morts. Ces troupes aguerries débarquent et avancent lentement, terrorisant la population, pratiquant la politique de la terre brûlée. 2000 prisonniers seront massacrés lors de la prise de Badajoz, le 14 août 1936. Franco ne cherche pas une victoire rapide. Il opte pour une guerre d'usure, afin de mieux éradiquer et nettoyer l'Espagne républicaine. Les putschistes le nomment « généralissimo » et « chef du gouvernement », puis « chef d'État ». Face au professionnalisme des troupes franquistes, avec l'aide massive d'Hitler et de Mussolini, les républicains font preuve d'un courage et d'une résistance inouïe. En juillet 1938, le mythique Paso del Ebro provoque une bataille d'usure de 4 mois qui va saigner l'armée républicaine. Le 23 décembre commence l'attaque finale contre la Catalogne. Le 1er avril 1939, Franco proclame sa victoire totale. On sait aujourd'hui que la junte de Casado, un putsch félon et fatal contre le gouvernement de Négrin, proposa à Franco une paix honorable contre la liquidation des communistes. Franco exigea une reddition inconditionnelle. La répression d'après-guerre fut aussi cruelle et systématique, planifiée que les opérations de guerre. Des dizaines de milliers de fusillés, 400 000 exilés, 400 000 prisonniers dans les camps de concentration, des prisons, des édifices religieux transformés en lieux de réclusion et de torture, des bataillons de travail d'esclaves qui enrichissent les entreprises qui dominent encore aujourd'hui le bâtiment et les travaux publics. Franco signait froidement des milliers de condamnations à mort. Les historiens Francisco Espinoza, Julian Casanova, Francisco Moreno ont beaucoup travaillé sur cette répression et ils la qualifient de plan d'extermination. L'Espagne franquiste, ce n'est pas, comme l'avance l'historiographie révisionniste de droite et de gauche, une dictature soft, mais c'est un régime criminel qui a commis les pires crimes contre l'humanité. On a retrouvé 1850 fosses communes et il y a eu environ 130 000 disparus. Près de 30 000 enfants volés à leur famille républicaine. Des expériences médicales sur les détenus. Un psychiatre fasciste, Valero Nájera, considérant le marxisme comme une maladie mentale et voulant purifier la race. Des conditions de détention terrifiantes. L'humiliation et la spoliation des vécus, la peur, le silence, la faim, ce que Paul Preston appelle l'Holocauste espagnol. Il fallait expier les péchés commis. En d'autres termes, c'était la revanche de classe des privilégiés. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la neutralité de Franco ne fut qu'un mythe de propagande. Paul Preston, sans doute le meilleur spécialiste du franquisme et du dictateur, démontre que Franco voulait entrer en guerre aux côtés d'Hitler. L'historien ajoute « L'Espagne fut neutre malgré Franco, pas grâce à lui. » Mais pour Hitler, la participation de Franco avait peu d'importance. Celle de Pétain lui paraissait plus nécessaire. Franco envoya cependant quelques milliers de phalangistes, la division Azul, combattre sur le front de l'Est aux côtés des nazis. Il redouta pendant toute cette période que la victoire des Alliés en finisse avec son régime. Le 24 mai 1944, le discours de Winston Churchill devant la Chambre des Lords, où Winston Churchill déclarait les problèmes politiques de l'Espagne sont le problème des Espagnols, le rassura. Une nouvelle fois, par anticommunisme, l'Espagne républicaine est lâchée. Franco obtient des garanties de Churchill et de Roosevelt. En mars 1945, le roi Don Juan publie le Manifeste de Lausanne, revendiquant une monarchie démocratique. C'est un feu de paille. En mars 1947, la doctrine Truman instaure la guerre froide. Franco s'installe alors dans une stratégie de pouvoir à vie, préparant même minutieusement le post-franquisme, le franquisme sans Franco. Il édicte le 31 mars 1947 une première loi de succession. Le 25 avril 1948, il rencontre l'héritier des Bourbons, Juan de Bourbon, fils d'Alphonse XIII. Ce dernier capitule, abdicte ses droits et accepte le jeune prince, l'actuel roi, soit élevé dans le giron franquiste. Les pays capitalistes considèrent désormais Franco, qui est obsédé par la haine des communistes et des francs-maçons, comme la sentinelle de l'Occident. Le 26 novembre 1953, l'Espagne et les États-Unis signent des pactes militaires de défense réciproque. Franco autorise l'installation de bases aériennes sur le sol espagnol. Dès lors, le franquisme pour le monde libre devient présentable. Le 7 septembre 1950, pour faire plaisir aux dictateurs, le gouvernement français arrête 288 militants antifascistes espagnols, la plupart dirigeants du PC espagnol et héros de la résistance, et les déporte ou les assigne à résidence. À l'été 1969, Franco annonce que son successeur sera le jeune prince, devenu roi et héritier par la grâce du dictateur, qui décrète le 20 novembre 1975. Tout au long de son exercice tyrannique du pouvoir, il saura maintenir un équilibre entre l'armée, les monarchistes, l'Église et la phalange. La force paramilitaire et instrument de la terreur d'État. Et puis, parti unique, hein, la phalange espagnola, traditionnella, et encadrant et surveillant étroitement la population. En 1957, le dictateur livrera les clés de l'économie capitaliste aux technocrates de l'Opus Dei, au détriment de la phalange. Durant toutes les étapes, la répression ne faiblit pas. Le 27 septembre 1975, quelques semaines avant la mort officielle du tyran, cinq militants du FRAP et de Doletea sont exécutés. Depuis les années 1960, les grèves, les manifestations ouvrières et étudiantes, les commissions ouvrières affaiblissent la dictature. Ce sont ces combats-là qui ont enfanté la démocratie, et non le pseudo-franquisme réformateur, comme l'avancent certains historiens néolibéraux inféodés. Après la mort du dictateur, commence un processus dit de « transition », avec notamment la loi d'amnistie du 14 octobre 1977, avec l'approbation d'une constitution dans laquelle est inscrite la monarchie. En 1975, il n'y a pas de référendum explicite pour la monarchie ou la République, et les premières élections démocratiques en 1977. Le pacte consensuel de l'époque entre le PC espagnol, qui porta l'antifranquisme, et le PS ou espagnol, les socialistes, et également les franquistes et les centristes de l'UCD, impose l'amnistie contre la paix civile et sociale et enferme l'Espagne dans un corset consensuel. Une transition sans rupture politique, judiciaire. Les élites économiques se recyclent démocratiquement. Le franquisme sociologique et politique s'enquiste dans la société et domine encore des secteurs importants. Les actuels organisateurs de l'oubli, le PSOE, et le Parti populaire néo-franquiste refusent de revenir sur la loi d'amnistie qui protège l'impunité du franquisme. Le juge Garzón s'y est cassé les dents. Le gouvernement socialiste refuse d'annuler les sentences des tribunaux d'exception franquistes. De cette originalité macabre de l'Espagne participe le mémorial du Valle de los Caídos, patrimoine national, construit par des milliers de prisonniers politiques esclaves, qui célèbrent la victoire des vainqueurs sur les Rouges, et où est enterré Franco, et dans des cryptes duquel reposent près de 34 000 corps de républicains arrachés secrètement à leur fosse commune. Depuis les années 1990, un puissant mouvement citoyen mémoriel remet en cause la transition. La stratégie de l'oubli a échoué et le conflit mémoriel s'avive. Le PC espagnol prône désormais fièrement la Troisième République dans une Espagne fédérale. C'est que la construction de la nouvelle Espagne sur de grands trous noirs a affaibli la démocratie elle-même. Il y a une démocratie à refonder, une vraie transition à ouvrir. La vie des morts et des valeurs qu'ils portaient refont surface et s'inscrivent dans la mémoire des vivants. Mais depuis, l'Espagne est en crise. Et où va nous mener cette crise ?
Tous ces beaux jeux inventés pour passer devant les premiers, pour que chacun soit écrasé s'il refuse encore de plier. Les dégâts, les excès, ils vont vous les faire payer. Les cendres qui resteront, c'est pas eux qui les ramasseront, mais les esclaves et les cons qui n'auront pas su dire non. Nous, on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants. Pimpronel et Nicolas, vous nous endormait comme ça. Le marchand de sable est passé. Nous, on garde un œil éveillé. Oh, la peur, oh, le vide. Oh, la victoire des avides. Faut pas bouger une oreille. Toutes sortes de chiens nous surveillent. Pas un geste, une esquisse. Sinon on tourne la vis. Nous on n'a rien à gagner. Mais on ne peut plus perdre, puisque c'est déjà fait. Toi qui viens de loin d'ici, avec ta peau et tes os, on t'a parlé de paradis, on t'a menti. Tout est faux, oh mon ami, oh mon frère, tout sonneur perdu pour la guerre. Tu vas voir tout l'amour qui traîne au fond des discours. Dis t'en veux, des papiers. Dis tu l'as vu mon palais. Oh t'auras rien. C'est ainsi, c'est pas fait pour les perdants. Le paradis. Il y a la chair à canon, il y a la chair à spéculation, il y a la chair à publicité. Enfin, il y a tout ce que vous aimez, vous et moi, on le sait. Le spectacle est terminé, pourtant c'était presque idéal. C'était loin du féodal. Oh, maintenant, c'est foutu. Ça fait joli dans ton fort intérieur. C'est gênant de rejoindre comme ça la cohorte des perdants. Faut pas se faire d'illusions, mais c'est mieux debout pour l'action. Et pour nos âmes, c'est égal. Dieu n'est pas dans la bataille. Oh messieurs les décideurs, de toutes parts, de tous côtés, sachez que profond dans nos cœurs, on n'arrête pas le progrès. Sous l'iris, sous la peau, sous les ongles et dans les taux, on pourra toujours refuser de devenir les premiers ou les derniers. Jamais des gagnants ni des perdants.